Bonjour, je suis Bob.
Et bonjour, je suis Ali. Bienvenue dans l'appel de Cthulhu. Et bonjour et bienvenue dans l'appel de Cthulhu, votre podcast. Confiné de ouf. voilà, on enregistre plutôt que d'aller se préparer, de mettre nos plus beaux habits pour écouter l'allocution du président de la République.
C'est vrai, nous sommes de mauvais citoyens.
Bon, il va dire des trucs, il va dire des phrases floues et après ce sera le Premier ministre qui va faire une conférence de 4h30 avec des ministres mal aimables pour expliquer les vrais trucs demain. Donc on s'en fiche. De toute façon,
c'est la faute des Français.
C'est exactement ça, c'est votre faute, c'est la faute de papy, c'est la faute de mamie, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Mais en tout cas, on est bien réunis pour parler de littérature parce que c'est l'objet de l'appel de Cthulhu. Et chaque mois, comme d'habitude, on débriefe un classique de la littérature. Je suis Ali et Bob est en forme aujourd'hui.
Ouais, je suis en forme complète, c'est trop bien, bonsoir.
Bonsoir, si vous reconnaissez cette voix et que vous avez l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part, c'est parce qu'elle parle dans le micro que Jock lui a envoyé.
Oui, donc, merci Jock.
Il y a de l'ADN de Jock qui flotte, voilà.
Complètement. Arrête, donc, c'est flippant quelque part.
Voilà, peut-être qu'il y a du Covid de Jock dessus, on ne sait pas.
Oh mon Dieu.
Non, nous ne faisons pas ça, nous désinfectons nos micros avant de parler dedans. Et ce mois-ci, vous allez voir, c'est un podcast un petit peu spécial, comme disent les Instagrammeurs, puisque ce sera un podcast où on va pas vous, où il y aura très peu de romans. Souvent, on parle beaucoup de romans dans l'appel de Cthulhu. Là, il y en aura que un qui sera notre sujet du jour, qui sera Sur la route de Jack Kerouac, mais c'est un roman autobiographique, donc on sera pas beaucoup dans la fiction. C'est comme ça. Et vous verrez, notre avis va peut-être vous surprendre. Tout ça pour dire que.
Restez jusqu'au bout pour nous écouter.
Restez jusqu'au bout parce que c'est peut-être un roman sur lequel on aura beaucoup de choses à dire, mais qui ne sera pas au top de notre classement de l'appel de Cthulhu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette émission. De toute façon, vous l'avez téléchargé, je m'en fiche, c'est bon pour mes stats, quoi qu'il arrive. Alors maintenant que vous êtes là, vous pouvez rester.
Voilà, vous êtes les bienvenus, on vous remercie beaucoup.
Mais dis-moi, Bob, qu'as-tu lu ce mois-ci ? Et j'ai cru comprendre, en préparant l'émission, que c'était pas un mois où tu as pu lire énormément de choses. Pour des raisons, notamment, qui tiennent au fait que tu fais partie de ces rares Français qui ont trouvé du travail ce mois-ci.
Ouais, moi, je pense que j'ai une étoile qui brille uniquement quand c'est des moments de crise, tu vois. Donc là, du coup, c'est bon, c'est le deuxième confinement, j'ai trouvé un travail. C'est merveilleux. Donc le fait est que pour le coup, ça a un peu bouleversé mon emploi du temps, donc je n'ai pas eu le temps de lire. Alors du coup, je vais vous parler de le livre de cuisine officiel de World of Warcraft. Voilà, par Monroe Cassel. Voilà. Alors, Cassel, alors comment vous expliquer ? Déjà,
Cassel, que c'est que ce livre ?
Voilà, j'essayais de faire une blague et toi tu l'as faite, c'est merveilleux, merci beaucoup.
Voilà. Alors. C'était ça ou Vincent Cassel, donc tu peux...
C'était Vincent Cassel qui me venait en tête, alors c'était un petit peu gênant.
Et on ne le salue pas d'ailleurs. Bon allez, c'est parti, la cuisine officielle de World of Warcraft, comment ça se mange ?
Eh ben, bizarrement, parce que bon, le livre est super joli, voilà, ça donne super envie, quand vous lisez les recettes, alors pour ceux qui jouent à WoW, forcément ça va vous causer, attendez que je vous dise du truc, alors déjà vous apprenez à faire des épices pandaren antiques, ouais monsieur, ouais madame, et des épices nordiques, ouais, alors là je peux t'assurer que j'ai des épices maintenant, hein. Après vous apprenez à faire des bouchées de busard, des beignets de crabe, des boutons de zangar émincés, du lichen épicé au miel, alors de la chaudrée de palourdes, du chili de souffle de dragon. Vous savez faire aussi du pain de pignon de pin de cale d'oreille et du pain épicé de mulgore, tout ce genre de trucs qui vous parlent si vous jouez à WoW, du délice de déviant, ce genre de choses. Bon. Des bronites d'Alaran aussi.
Ça a l'air d'être très de la cuisine hivernale quand même, World of Warcraft.
J'ai retenue, mais oui, quand même, si un petit
cuisine
peu.
Cuisine confort.
Oui, un peu beaucoup. Alors, un peu trop confort parce que justement, je crois que la jeune femme qui a écrit ça, donc elle tient un blog de nourriture. Et, au départ, c'était pour faire les nourritures de Game of Thrones, je crois.
D'accord, ok. Donc, elle a décliné la formule à une autre licence.
Ouais, voilà, c'était pour Game of Thrones. Et oui, alors du coup, pour The Song of the Ice and the Fire qu'elle a fait, tu vois.
Ah d'accord. J'espère qu'elle fera jamais celle de Frostpunk.
Alors, écoute...
manger une jambe de bébé, ça, alors, parce qu'on meurt de froid.
Bon, je pense qu'elle pourrait, elle pourrait dire que c'est du poulet, tu vois, ou un truc
c'est
comme
vrai.
Ça. Je sais pas, elle pourrait, je pense. Par contre, ce que je doute, c'est qu'elle soit vraiment très forte en cuisine, par contre.
Ah là là, c'est pas des recettes très bien.
C'est pas fantastique, hein. Il faut savoir il faut savoir faire un petit peu de cuisine à côté pour se rendre compte que, bon, il y a un moment donné où trop de sucre tue le sucre quand même, hein. Alors, par exemple, alors déjà, j'avais fait le lichen au miel. Alors, c'est super joli. Je vais vous le... Hop, voilà. Donc, c'est facile. Alors, vous prenez 4 à 6 feuilles de chou frisé, 2 cuillères à soupe de miel. C'est beaucoup trop, je vous le dis direct, c'est beaucoup trop.
J'ai mal au ventre, rien qu'à en lire, tiens, c'est trop.
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 quart de cuillère à café d'ail en poudre et une pincée
un
de
kilo
poivre
de sein doux.
C'est un peu ça. Alors, préchauffez le four à 100 degrés et tapissez une plaque de four de papier à cuisson. Déchirez les feuilles de chou en morceaux d'environ 5 cm de large. Jetez les tiges. Dans un saladier, mélangez le miel, l'huile d'olive et les épices. Trempez les feuilles de chou dans cette mixture, puis épongez l'excès de sauce. Posez le chou sur la plaque de cuisson en évitant que les feuilles se touchent. Faites cuire 50 minutes en retournant le chou à mi-cuisson. Retirez du four, laissez refroidir et régalez-vous. Alors, c'est pas une grande régalade. Hein,
ouais.
Après, ceci dit, c'est très joli. Et puis, vous pouvez faire des jolies tables avec. Hein. Par contre, faut aimer le chou brut. Au final, parce que... Et puis, avec un sucre qui vous prend toute la bouche, donc c'est pas l'idéal là-dessus, tu vois, c'est pas l'idéal. Par contre, je retiens les carottes sautées, qui étaient très bonnes. Tu fais des carottes sautées avec du beurre, de la sauce soja, encore une cuillère à soupe de miel, et un peu de gingembre. Et ça, par contre, c'était pas mauvais du tout. Là où il y a eu un énorme fail aussi, et là, je me dis, franchement, ma pauvre, tu ne sais pas cuisiner, c'est pas possible. J'ai suivi la recette par, comment dire, par envie, tu vois, je me suis dit, allez, je suis pas non plus une super forte en cuisine, tu vois. Faut pas non plus... hein, voilà. Mais quand même, tu vois, les strudels de Man invoqués, c'est super joli. Tu te dis, oh, c'est trop bien. En plus, je connaissais un peu le principe là. Tu prends une pâte feuilletée, tu laisses le milieu, mais tous les côtés, tu coupes un peu pour pouvoir rabattre en lanière sur ce que tu vas mettre au milieu. Et donc là, elle tique au milieu, il faut mettre... de la confiture de cerise ou de fruits rouges, jusque-là tu dis ça a l'air bon, et du fromage blanc. Mais du fromage blanc qui va au four, ça marche pas du tout.
Bah, pas terrible, non.
Non, c'était pas bon, je me suis dit je vais le faire, on sait jamais, peut-être que
ça doit être âcre un peu, c'est
ben, ça dégoûtant. Ça a caillé.
Ouais, bah oui,
ça
c'est
ça. Ça a caillé, c'était tout dégueu, ça faisait
comme,
des petits poupées.
Comme du vieux fromage de chèvre un peu dégueu que t'as oublié sous un meuble, quoi. Ça...
Ouais, encore, non, ça pourrait être bon, le fromage de chèvre. Là, c'était vraiment pas bon du tout, ça m'a gâché le truc. Alors du coup, je pense qu'il faut remplacer par de, je sais pas, genre de la ricotta ou un truc comme ça, tu vois, pour
oui,
que ça soit meilleur.
Un truc qui passe au four, en fait.
Ouais, voilà, un truc qui passe au four. Donc, je pense que, voilà, elle est pas très douée en cuisine, mais elle a écrit un bouquin qui est super joli. Alors, après, je pense qu'une fois que tu connais un petit peu la cuisine, tu peux voir les conneries qu'elle peut mettre.
Ouais.
Et tu peux adapter. Je crois que j'avais vu aussi le chocolat, le gâteau au chocolat. C'était beaucoup trop. Ah ouais, c'est ça, ouais. Le gâteau au chocolat, elle te met 300 grammes de sucre semoule dedans.
C'est beaucoup ! Pour combien de personnes?
C'est pas possible. C'est... Vous pouvez passer pour 8 personnes, mais c'est pas possible. T'as 120 grammes de chocolat. Alors, du chocolat blanc.
Ah oui, donc
voilà.
T'as presque 3 fois le volume de sucre qu'il y a de chocolat.
Mais c'est
mais
ça.
En fait,
t'as
c'est,
240
c'est
un... grammes de beurre mou et t'as 300 grammes de sucre semoule. J'ai dit, mais t'es folle, ma cocotte, là-haut, popo.
Waouh, mais moi, je peux pas manger des gâteaux comme ça. En fait, si tu veux, ça me rappelle les pâtisseries japonaises avec de la crème au beurre dans lequel t'as de l'huile qui flotte
oui,
et tout ça. C'est les trucs.
Mais c'est impossible.
Ça peut être beau à l'extérieur, mais c'est pas fait pour être mangé. C'est fait pour être mis en vitrine en disant, regarde, je fais des gâteaux colorés, quoi. Mais,
ouais, grosso modo, c'est ça. Parce que c'est super joli. Alors après, je retiens sa méthode de glaçage hyper rapide où tu mélanges un peu de sucre glace avec je sais plus quoi, un peu de crème, enfin machin, puis tu mélanges tout. Bah, ça fait... Là par contre c'est nickel, je l'utilise bien. Donc il y a du pour, il y a du contre, après il faut savoir cuisiner un petit peu. Il y a plein de recettes de pain, donc c'est un peu bien pour maintenant, tu vois, le confinement, tout ça, je crois que les Français aiment faire du pain quand ils sont confinés. Et là, c'est notamment du pain plat que tu fais frire, enfin que tu fais cuire au four, ce genre de truc. Et il y a, alors ouais, pain de pignon de
Le pain de pignon de pain de cale d'oreille est très joli aussi. Tu mets du lait chaud, encore du miel, de la levure instantanée, un œuf, 4 cuillères à café d'huile d'olive. Après, je ne les ai pas essayés, hein, ceux-là. 50 g de parmesan, parce que j'ai flemme. 3 quarts de sel, un peu de 500 g de farine à pain et un œuf battu pour le glaçage. Aucune idée si c'est bien ou pas. Hein, donc, mais voilà, il y a du pain au miel celui-là. Il a l'air trop beau, il donne faim. Mais je m'y risquerai pas, j'ai trop peur de me planter.
Est-ce que je peux rebondir sur cet ouvrage? Mais
laisse-moi baver.
Non, mais totalement, tu peux totalement baver.
Une recette de bretzel.
Mais entre le chou, le bretzel et le fait qu'il y ait trop de sucre, elle serait pas du Nord-Est aussi cette personne, parce que moi je reconnais bien les travers de chez nous, tu vois.
Mais oui, complètement. Mais non, elle est des États-Unis, hein. Voilà.
Ah d'accord, je pensais que c'était un livre français, mais je n'y avais pas réfléchi.
Pas du tout.
Ah bah elle s'appelle Chelsea en même temps, la dame.
C'est ça, Chelsea Monroe Castle, tu vois.
Alors
donc...
ça s'explique, je ne sais pas si tu as déjà vu une émission de cuisine américaine.
Voilà.
Honnêtement, là-bas tu gagnes top chef avec des nouilles au jambon, hein. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel à la fois t'as des cultures locales de cuisine qui sont très riches, c'est genre la cuisine cajun, les machins, etc. Mais dès que t'es sur des cuisiniers, enfin dès que t'es pas chez des grands chefs ou des restaurants réputés, tout est dégueulasse en fait.
Ah oui, non mais ça fait peur, hein, là pour le coup, sincèrement, tu sens l'influence états-unienne, hein, là pour le coup, on peut pas se planter. Hein. Mais bon, elle écrit d'autres trucs, hein, pour la nourriture. Donc faites comme vous le sentez. Vous pouvez l'acheter parce que c'est très joli et si vous savez cuisiner, ça peut vous donner des idées.
Ça peut rester un objet d'art, hein. Je veux dire, ce type de bouquins sont souvent très beaux. Tout à l'heure, je voulais rebondir en disant que ma maman, qui est très fan de trucs de mafieux, okay. Tu sais, de séries et de films avec des mafieux, elle avait acheté Les Sopranos, recettes pour toute la famille, qui était un bouquin qu'aujourd'hui ne se trouve qu'en occasion à environ 70-80 euros, mais qui reste un très beau cadeau si vous avez des amateurs de mafia et de bouffe italienne dans votre famille, puisque c'était un grand chef italien qui avait essayé de refaire tous les plats qu'on voyait dans la série
Les
Sopranos.
Un grand chef, quoi, ça devait être bon.
Voilà, et là pour le coup, c'était des plats que tu pouvais à peu près refaire chez toi, parce que la cuisine italienne, elle est rarement ultra compliquée. Ouais. Et c'était vraiment très très bon. Et il y avait des trucs qui ne te donnaient pas envie de mourir d'un diabète sucré dans les 3 heures, quoi. Donc,
ah oui, c'est excessif. Après voilà, il y a des bonnes recettes de saumon, des trucs comme ça. Il y a des patates douces confites. Il y a vraiment de quoi faire, hein, je pense. Hein, sauf qu'il faut enlever le sucre.
Voilà, et on retiendra que c'est un bel objet.
Oui, et c'est un bel objet. Puis ça fait rêver quand tu joues à WoW et tout, tu te dis, voilà, tu vois, j'ai fait un saumon aux épices pandarènes ou aux épices anciennes, tiens, dans ta face et tout, tu peux faire des jolis petits repas, c'est sympa, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça.
Voilà, pour la Horde, Zog Zog Akita, tout ça.
Oui, parce qu'il y a des choses, il y a des repas aussi de la Horde, hein, dedans. Hein. Il y avait le petit truc, le biscuit de gobelin, je crois, un truc comme ça. T'as des petits pains de manne invoqués. Arrêtez-moi, je vais...
Stop,
je vais... Voilà.
Cette émission doit durer une heure, et pas une heure consacrée à World of Warcraft.
Alors, et toi, Zani, qu'est-ce que tu as lu?
Alors, moi, j'ai lu une autobiographie, figure-toi. Oh. J'étais dans un mood très autobiographique entre ça et le livre dont on va parler après. J'ai lu Jump, l'âge d'or du manga par Hiroki Goto, publié chez Kurokawa, enfin chez Kuropop, qui est leur label de publication de pas manga, puisque du coup, pour le coup, c'est une autobiographie. Alors, Hiroki Goto, c'est un personnage qui n'est pas forcément connu, y compris des fans de manga qui ne sont pas ultra investis dans l'histoire, dans la longue histoire du manga, mais c'est quelqu'un de très important en fait dans l'histoire du manga et notamment du manga. Manga shonen, donc les mangas pour qui ciblent, on va dire éditorialement plutôt un public de jeunes garçons, puisqu'il a été, directeur du Shonen Jump, donc magazine légendaire qui a publié notamment Dragon Ball, Doctor Slump, JoJo's Bizarre Adventure.
Voilà. C'était bien ce que je me disais que c'était ça. Oui, Jump, j'ai le visu.
Voilà, donc le manga qui a, enfin le magazine qui a un petit peu révolutionné pas mal de choses dans la manière dont se publiaient des mangas, qui a aussi un fonctionnement qui est assez légendaire avec tout un comité de sélection pour les mangas, avec le vote des lecteurs qui est très important, etc. Enfin bref, c'est un magazine qui est à la fois très iconique de l'histoire du manga au Japon et pas très représentatif du milieu éditorial en général au Japon. Donc il y a toujours ce truc de deux poids deux mesures où on a l'impression que tout le toute la scène manga au Japon, c'est un peu le Shonen Jump, alors qu'en fait, non, pas tant que ça, c'est juste le plus gros magazine, enfin, ça a été le plus gros magazine à un moment donné, puisqu'ils ont tiré jusqu'à 7 millions d'exemplaires à la fin des années 80.
C'est qui maintenant ?
Bah, ça doit toujours être eux, sauf qu'ils tirent à 2 millions, quoi. C'est, ah, le, oui. Le marché a toujours beaucoup changé, enfin, le marché a beaucoup changé. Puis surtout, ils se sont mis à tirer à 7 millions parce qu'à la fin des années 80, ils ont eu une espèce de période où ils avaient à la fois Dragon Ball, Slam Dunk, enfin, ils avaient tout en même temps dans leur magazine. Ouais. Voilà, ils avaient Captain Tsubasa, enfin, ils avaient toutes les séries qui se sont vendues à plus de 100 millions d'exemplaires après, en même temps, dans le même magazine. C'est-à-dire que t'achetais en 88 ou 89 un exemplaire du Shonen Jump, t'avais un vrai monument d'histoire de la bande dessinée en général entre les mains.
Ouais,
et voilà. Et en fait, la particularité d'Hiroki Goto, c'est qu'il a été embauché dès la création du Shonen Jump quasiment, en tant qu'assistant éditorial. Donc, il a vécu, en fait, 35 ans de sa carrière là-dedans. Et c'est une... Alors, il raconte pas toute sa carrière dans ce livre, mais il en raconte une grosse partie. Il raconte comment le magazine a été fondé, comment ils ont galéré un petit peu au début, et comment ils ont failli tous mourir de burn-out, puisque c'est une problématique récurrente au Japon, déjà en général, mais dans le milieu du manga en particulier. D'ailleurs, il a un regard qui est très très japonais et très ambivalent là-dessus, puisque d'un côté, il dit « bon, ça a ruiné ma vie, on a tous failli mourir, y compris les dessinateurs », et d'un autre côté, on est fiers de l'avoir fait, tu vois, bon, c'est... donc il faut pas s'attendre à une remise en cause des fondements de des fondements de l'économie japonaise là-dedans, mais c'est un document qui est très précieux. Alors il faut pas y aller si vous voulez vraiment des révélations croustillantes sur genre oulala, tel auteur c'était un mec horrible qui je sais pas quoi attachait des prostituées dans sa cave, hein. Ça reste une autobiographie autorisée par l'éditeur, très formelle, très regardez tout ce qu'on a accompli, mais en même temps c'est super intéressant parce que Monsieur Goto, je pense qu'il est à la retraite maintenant, donc il se permet quand même des commentaires et des jugements qu'il ne se serait pas permis à l'époque où il était directeur du Shonen Jump. Notamment, il dit bah voilà, il y a certains moments où le Shonen Jump a pris des mauvaises décisions. Il y a certains mangaka qu'on a laissé filer, on n'aurait pas dû parce qu'on a été trop dur avec eux. Au contraire, il y a certaines séries, notamment il est très très dur avec l'auteur des Chevaliers du Zodiac.
Pourquoi, qu'est-ce qu'il dit ?
Bah, il dit qu'en gros le mec il avait un talent fou et qu'il l'a employé juste à créer des trucs qui pouvaient vendre des jouets, quoi, au lieu de raconter des histoires, ce qui est pas faux. Dans les planches de Saint Seiya, enfin dans les intertitres des chapitres, t'avais déjà le mec qui dessinait. Bah alors voilà, si vous faites un jouet, il faut que l'armure elle se plie comme ci comme ça et qu'il y ait des genoux.
Et donc le mec dit bah voilà. Créer des jouets, c'est cool.
Ce gars-là, il dit bah voilà, c'était un gars qui était très talentueux pour raconter des histoires, mais au final il a juste créé une licence et juste en termes artistiques, c'est un peu dommage. Enfin, du coup, voilà, il se permet des fois certains trucs. Certains trucs qui ne se seraient pas permis et qu'aucun japonais en exercice ne serait permis. Donc son côté un peu j'ai 35 ans derrière moi, j'ai été directeur de ce truc là maintenant ça me donne un côté un peu intouchable pour donner mon avis, et des fois assez intéressant. Et c'est très différent d'une autobiographie française. C'est pas la première autobiographie japonaise que je lis régulièrement. Quand il y a des autobios d'auteurs japonais qui sortent, ça m'arrive de me plonger dedans, et là c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est un style qui est très à la japonaise. C'est à dire que je sais pas si t'as déjà lu des interviews de mangaka ou des interviews de gens qui bossent dans le jeu vidéo au Japon.
Ça m'est jamais arrivé.
C'est tout un art de ne jamais répondre à la question tout en donnant suffisamment d'éléments pour que tu puisses interpréter la réponse. C'est-à-dire, tu sais, il y a ce truc au Japon de tu ne dis jamais ce que tu penses.
De la langue de bois, quoi.
C'est pas exactement ce que nous on appellerait de la langue de bois. C'est je te fais passer les informations pour que tu les comprennes. C'est pas je ne réponds pas à la question. C'est je vais faire vraiment des périphrases très longues. Tu vois, on ne dit pas non au Japon. On dit je vais envisager de réfléchir si les difficultés que vous pointez ne sont pas trop grosses pour nananana, mais tu dis jamais non parce que c'est très mal poli et c'est très frontal. De même, tu ne vas jamais dire oui. Tu vas dire je vais consulter ma base et mes collaborateurs et après nous reviendrons vers vous pour vous donner si tous les augures sont bons et on y répond.
C'est épuisant.
Et j'exagère à peine. C'est-à-dire que c'est notamment épuisant pour les traducteurs qui doivent traduire des interviews ou des autobiographies parce que il y a beaucoup de formules et de périphrases. Mais là, c'est pas trop présent dans ce bouquin-là. Mais on le sent quand même. Ce style de tourner un petit peu autour du pot pour ne pas affronter directement les opinions et pour ne pas, en gros, faire perdre la face aux gens que tu accuserais de choses. Alors, je peux te lire un petit extrait, d'ailleurs, qui parle un petit peu de ça, puisque c'est un extrait d'un chapitre qui s'appelle « L'âge d'or de la conquête victorieuse ». Ça aussi, c'est très japonais, comme voilà.
C'est très mignon.
Où il parle de la manière, enfin, du moment où le Shonen Jump est passé d'un magazine un petit peu confidentiel au moment où ils ont commencé à lancer leur série qui fonctionnait bien. Après, il y a un chapitre sur l'âge d'or en lui-même, où le moment où il tirait à 7 millions d'exemplaires. Mais là, il parle un petit peu de tous les atermoiements qu'il y a eu sur bah, est-ce qu'on publie tel truc, est-ce qu'on le publie pas, est-ce qu'on change notre ligne éditoriale. Enfin, le début des années 80 fut également marqué par l'émergence de sujets romantiques au sein des mangas shonen. Je devrais peut-être même parler de l'irruption des comédies romantiques shonen que je n'avais absolument pas vu venir. Comprenez-moi, comment des mangas parlant de romance pouvaient-ils être publiés dans des magazines de mangas pour garçons assoiffés d'action et d'aventure, et qui plus est rencontrer un succès aussi extraordinaire ? En japonais, le genre que l'on appelle comédie romantique est dénommé rabukome, oui, très bonne traduction d'ailleurs de Kurokawa où ils expliquent toujours les termes, abréviation à la japonaise des termes anglais love comedy. Sous ce nom bien pensé se cachent des histoires qui explorent avec légèreté les émois amoureux de l'éveil sensuel par lequel passent les garçons à l'adolescence. Dans ces comédies romantiques, l'histoire se déroule principalement dans une ambiance légère où l'on garde le sourire. Les comédies romantiques les plus marquantes pour moi furent celles de Mitsuru Adachi, en particulier Touch, entre parenthèses publié par Glénat chez nous, publié dans le magazine Shonen Sunday de 1981 à 86, ainsi que Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, publié dans le même magazine de 78 à 87. Ces deux titres augmentèrent considérablement les ventes du Shonen Sunday, et j'ai même entendu dire que le rédacteur en chef de l'époque se vantait de pouvoir décapiter le Shonen. Voilà, donc ça parle un petit peu comme ça. Donc ça mélange un petit peu des anecdotes, des considérations sur l'évolution du marché et des chapitres entiers qui sont consacrés à des analyses que Hiroki Goto fait de certaines séries. Pourquoi elles ont fonctionné, pourquoi elles ont arrêté de fonctionner aussi à un moment. Donc si vous vous intéressez à l'histoire de la bande dessinée et du manga en particulier, c'est un document qui est très précieux.
J'en connais dans le Calvin Bond qui vont être intéressés.
Oui, ils l'ont tous déjà lu, je pense.
Mais... ouais, d'accord, ok.
Non, ça a été un petit... Alors, c'est évidemment ce genre de... Les autobiographies, déjà, ça se vend pas de ouf, sauf si c'est un président, ou, voilà. Donc, ça a été un petit succès, quand même, dans la sphère des amateurs de manga. Mais si vous connaissez pas du tout les mangas, c'est intéressant aussi, parce que ça vous présentera certaines des grandes séries qui ont façonné le manga shonen tel qu'il est arrivé, on va dire, au début des années 2000, et tel qu'il a évolué ensuite. Il y a un chapitre final où il parle un petit peu de ses considérations de vieux monsieur, d'ailleurs, on peut le dire un petit peu sur la manière dont la scène manga évolue depuis, et c'est intéressant aussi d'avoir le regard de quelqu'un qui a vu toute l'industrie se construire. Donc voilà, ça s'appelle Jump, l'âge d'or du manga, c'est publié chez Kuropop, et je dois encore une fois vraiment saluer la traduction exemplaire de je ne sais pas qui l'a fait.
Il date de quand déjà celui-là? Il me semble qu'il a un petit peu de bouteille déjà.
Juillet 2019.
Ah non, tu vois, bah oui, bah je me suis trompé. Okay.
Donc voilà, traduction de Julie Seta. Donc merci Julie Seta d'avoir œuvré pour que nous puissions lire ce livre dans une traduction que j'ai trouvé vraiment
de
très, très chouette. De qualité. Ce qui est de qualité également, le sais-tu, ce sont les podcasts du Calvin Ball Consortium.
Oh yeah.
Oulala, et tu sais qu'on en a lancé un nouveau.
Oh, lequel?
Eh bien, c'est un podcast de Joc, dont tu parles dans son micro actuellement, un podcast enregistré avec le micro dans lequel tu parles actuellement.
Mais c'est incroyable.
Voilà, et puis c'est un peu différent des podcasts qu'on publie habituellement dans le Calvin Ball Consortium, puisque les règles du jeu, en fait, c'est tout simplement, c'est sorti en un bloc, c'est une saison de cette ou 8 interviews donc, qui ont été réalisées en juillet 2018 et qui se passent dans le milieu des métiers du jeu vidéo.
Oui.
Puisque, voilà,
en vrai, je sais. Hein.
Mais ben, je me doute bien que tu sais, mais je jouais le jeu comme quoi je t'explique les choses. donc voilà, les règles du jeu, ça va s'intéresser au parcours des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ou en tout cas qui ont été étudiants dans le milieu du jeu vidéo. Et l'angle qui est très intéressant dans les règles du jeu, c'est qu'on va avoir autant des gens qui sont... tu sais, quand on pense à des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, on va tous y penser soit à des développeurs, soit à des game designers. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est aussi des scénaristes. C'est aussi... par exemple, pas assez, mais oui, ça, c'est aussi un métier, oui. Mais c'est aussi des graphistes, c'est
j'ai
aussi
failli être scénariste de jeux vidéo.
Incroyable.
Oui. J'ai demandé
donc, voilà.
Trop cher.
Si tu ben écoute, est-ce que c'était pour un sous-traitant d'une boîte qui a eu des problèmes récemment?
Non, alors c'est... pas du tout. Non,
c'était pas eux.
Non, c'était pas eux. C'était pour un jeu vidéo gratuit et j'ai demandé trop cher en tant qu'auto-entreprise. Et c'est pas grave puisque maintenant moi j'ai fermé et eux ils ont jamais sorti leur jeu vidéo.
Ne bradez pas vos prix parce que voilà, si vous bradez vos prix, tout le monde bossera pour pas assez cher. Bref, tout ça pour dire que dans les règles du jeu, vous aurez des interviews de développeurs, de game designers, d'étudiants en game design, de compositeurs ou simplement d'enseignants puisque les jeux vidéo ça s'enseigne aussi dans des écoles. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des paroles de gens qui sont. Qui son prof. Et Les règles du jeu aura une saison 2, puisque ces interviews ont été réalisées il y a environ 2 ans et que tous les intervenants ont accepté de repartir pour une saison 2 pour dire, bah voilà, cool. deux ans après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pense toujours à la même chose de l'industrie du jeu vidéo? Est-ce qu'on a changé de voix, pas changé de voix? Est-ce qu'on a changé de métier au sein du jeu vidéo? Donc voilà, est-ce que les projets sont concrétisés? Donc voilà, n'hésitez pas à écouter Les règles du jeu, ça se trouve sur toutes les bonnes applis de podcast et c'est produit grâce à Jock et le Calvin Ball Consortium.
Wouhou, bravo!
Voilà, maintenant c'est l'heure de parler d'un livre qui sur ma liseuse fait 933 pages.
Ouais, alors moi elle fait pas 933 pages sur mon livre à moi parce que moi j'ai la version édulcorée des années 70.
Alors moi ça fait aussi 933 pages parce que c'est il y a 250 pages à peu près de préface et d'articles qui contextualisent et qui expliquent le bouquin.
Ah oui, voilà, parce que moi en fait je suis à 478 pages brutes quoi.
Ouais, mais même comme ça, hein, même comme ça, j'ai une version qui est effectivement un peu plus longue puisque moi j'ai lu donc Jack Kerouac sur la route, le rouleau original, sous-titre chez Folio.
Voilà,
et toi tu as lu la première version, la version qui a été parue chez l'éditeur Viking, je crois, et traduit en France par peut-être Gallimard, je sais plus.
C'est ça, c'est Gallimard en 1960. Bah ça fait mal au cul, hein, je vous le dis direct. Hein. Moi, je spoil direct là. Pouf.
Alors voilà, soit c'est un livre que tu as eu beaucoup de mal à lire, moi un peu moins. Je l'ai pas fini non plus, tout simplement parce que 900 pages c'était beaucoup et j'avais compris à peu près où ça voulait en venir et je m'étais dit bon, de toute façon je prends pas un plaisir non plus immense à le lire.
Oui,
je vois bien l'importance que le bouquin a, on va en parler dans la culture, enfin dans la culture américaine et dans l'histoire de la littérature, hein, tout simplement.
Oui, pareil, c'est clair. Ça se voit bien, on comprend. Mais on est quand même en 2020 et voilà.
J'en pouvais plus. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus.
Clairement pas, quoi.
D'autant plus que ma version doit être encore un poil plus hardcore que la tienne, puisque on va parler hein, d'histoire de la publication de ce roman qui est complexe.
Ouais.
Mais la toute première version de ce roman, c'est un rouleau de 30 mètres.
Déjà, où est-ce qu'il a trouvé ce papier, ce rouleau de 30 mètres? Alors, ça, par contre, est-ce que c'est dit quelque part?
Oui, alors c'est expliqué. Alors il a longtemps dit qu'il l'avait trouvé à brader dans une papeterie et on a appris un peu après la mort de Jack Kerouac, puisque c'est de Monsieur Kerouac qu'on parle, que en fait il avait volé ce rouleau chez un ami qui s'était suicidé.
Oh le con.
Ce qui est très raccord en fait avec l'ambiance de sur la route. Donc il a effectivement trouvé ce rouleau de 30 mètres qu'il a envoyé à des éditeurs après sa rédaction en 3 semaines en 1951 ou 50, je sais plus.
Oui, les éditeurs, reste un exploit, on est d'accord.
Voilà, les éditeurs ont commencé par dire waouh, non.
Oui, non, parce qu'attention, il l'a écrit en 3 semaines, mais il y avait absolument aucun paragraphe.
Voilà, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de ponctuation. Ça préfigurait très bien ce qu'était après ce que d'autres écrivains ont fait en flux de conscience libre et en machin comme ça. Mais là, c'est vraiment, je te raconte mes 3 ans de voyage à travers les États-Unis dans un rouleau de 30 mètres sans ponctuation. Pourquoi vous ne l'éditeriez pas? Réponse,
parce qu'on s'en fout.
Ouais, et puis parce qu'on est en 1950 et personne ne publie ça, en fait, tu vois. Il n'y a pas d'éditeur qui. Donc voilà, sur la route, qui a une histoire de publication très compliquée. Il y a une version qui a fini par sortir 10 ans plus tard, au moment où d'ailleurs Jack Kerouac lui-même était assez largement passé à autre chose dans sa vie.
C'est version... peut-être pour ça, il arrivait peut-être enfin à enlever le maximum de trucs qu'il pouvait enlever ou à retravailler dessus, je sais pas.
Alors en fait, dans ma version, justement, toutes ces préfaces expliquent un petit peu tout ce cheminement.
Ouais.
Jack Kerouac, c'était quelqu'un qui allait globalement assez mal. Hein,
étonnant.
Voilà, toute la fin de sa vie n'a été qu'un long cauchemar parce qu'il a très très mal vécu le succès de Sur la route. Ça a détruit le peu qui restait de lui parce qu'on le renvoyait déjà à une contre-culture auquel lui ne se rattachait pas. Puisque le roman a été publié en pleine ferveur hippie, années 60, Peace and Love, etc. Un mouvement dans lequel lui ne se reconnaissait pas du tout. Il était, lui, se définissait comme de la Beat Generation, donc une génération abattue qui ne voyait pas de perspective d'avenir et qui se réfugiait dans les drogues et l'alcool juste pour fuir la réalité et l'horreur du monde.
Oui, c'était le punk de l'époque.
C'est, voilà, en fait, c'est plus un précurseur des punks que des hippies. Les hippies ont beaucoup tiré d'héritage en fait de ce qu'il a écrit, notamment cet appel de la route, des grands espaces, du refus,
ouais,
du conformisme.
Ouais. Mais tu vois, je trouve que les hippies, ils sont positifs dans leur message. Tu vois, c'est joli, c'est beau, machin et tout.
Oui.
Ils prônent l'amour, la joie et tout. Alors que quand tu lis la route, Mais c'est désespérant.
C'est clairement un roman sur des gens qui vont mal. Mais enfin bref, tout ça pour dire que, pour juste finir sur le contexte d'écriture, donc Kerouac a beaucoup, Jack Kerouac est un petit fils de marin breton, fils d'immigrés québécois aux États-Unis. Voilà, hein, petit Jean Kerouac, comme son père l'appelait, parce qu'il s'appelle Jean, il ne s'appelle pas Jack en fait. Il trouvait juste que publier un roman, il est francophone d'origine, il a appris l'anglais à 15 ans.
Jack Kerouac, c'est vrai que ça sonne bien, ça claque bien, si je puis me permettre.
Voilà, Kerouac, c'est très breton, hein. il a gardé ça, mais ouais. Effectivement... Enfin bref, donc voilà, il vit une vie assez dissolue et rocambolesque, faite de voyages un petit peu partout aux États-Unis, faite de publications de poèmes, il publie des romans, puis il disparaît à moitié, il occupe divers boulots de gardien de nuit, il ramasse du coton, enfin, il a vraiment une espèce de vie de vagabond, où il fréquente d'autres personnalités littéraires qui ont un peu des destins similaires, notamment Allen Ginsberg, qui plus tard sera un grand pacifiste, qui manifestera contre la guerre du Vietnam, etc. Et en fait, il n'obtient le succès littéraire qu'à la publication de Sur la route, même s'il a publié des choses avant, qui va extrêmement mal vivre parce que tout d'un coup, il est mis en lumière. Alors, au moment où il est mis en lumière, il est déjà dépressif et alcoolique. Donc un dépressif alcoolique à qui vous remettez brutalement en lumière, vous lui faites des interviews toute la journée. Et
oui,
ça
fait pas un très bon mélange.
Ça fait pas un très bon mélange, et en parlant de mélange, ça va accentuer sa consommation de drogue et d'alcool, et il mourra dans un désespoir absolu 10 ans plus tard, tout en se considérant comme extrêmement incompris. Voilà,
ça, oui, parce que de toute façon, moi personnellement, quand j'ai lu Sur la route, c'est sa biographie, ok, admettons, machin, mais ça, je n'ai pas du tout aimé le personnage qu'il incarne. Enfin, moi, j'ai aucune sympathie pour lui. Je trouve qu'il est pas gentil avec les gens qui sont autour de lui. Je veux dire, il les regarde souffrir et il fait rien pour les aider, quoi.
Bah, en fait, c'est des gens qui mutuellement se regardent souffrir parce que lui-même, lui-même est dans une espèce de, dans une espèce de perdition, alors progressive. Des fois, ça va mieux.
Il est perdu. Oui.
Puisque c'est en grosso modo, on peut raconter, c'est une histoire autobiographique. Et d'ailleurs, dans ma version, moi, j'ai les vrais noms.
Oui, moi, pas du tout. J'ai des faux. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que dans la traduction, ils ont changé les prénoms? Ça n'a aucun sens.
Bah en fait ça c'est pour des raisons légales. Ça c'est l'éditeur de Jean-Louis Kerouac Jean-Louis Le Brit Kerouac. Ouais. C'est son éditeur qui lui a dit écoute ce n'est pas possible de le publier avec les noms. Tu peux pas dire que c'est que Lucien Carr s'appelle Lucien Carr. Tu peux pas dire que Neil Cassady s'appelle Neil Cassady parce que ils auraient le roman a fait scandale hein, parce que ça parle énormément de sexe, de drogue.
Moi par contre ils ont tous été zappés les passages de sexe.
Alors ouais, alors moi, il y en a. Bon, c'est pas des passages, on considérerait pas ça comme scandaleux aujourd'hui du tout. Mais il décrit des orgies homosexuelles, il décrit de la prise de drogue, il décrit des scènes. Enfin, il y a une scène où il squatte chez son ami français Henri Cru.
Oui, alors celui-là, par contre, le passage-là, je l'ai beaucoup apprécié.
Oui, passage où ils deviennent un peu vigiles la nuit là, tout ça, ouais. dans des casernes pour marins.
C'est énorme.
Voilà.
Ah, c'est énorme le passage-là.
Ouais, et donc voilà.
Rémi, il s'appelle.
Ouais, Rémi Boncoeur, un personnage qui réapparaîtra sous divers noms dans les romans de Jack Kerouac. Donc voilà, moi, tous ces personnages-là s'appellent par leur vrai nom, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque de procès autour de ça. Mais à l'époque, Kerouac a été contraint de changer les noms, et il a fini par accepter pour que le livre sorte et pour en être quelque part un petit peu débarrassé, quoi. Mais,
Oui. D'accord, c'était pour ça, je me posais la question, parce que là, ils ont fait un film aussi sur la route que j'ai essayé de regarder, du fait que j'avais pas réussi à terminer le bouquin. Je me suis quand même, je vais regarder le. Mais c'est tout aussi chiant.
Alors,
c'est horrible. Et ils ont gardé les prénoms aussi de la version française. Ça, par contre, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris les prénoms du rouleau? Parce que je crois que le rouleau eux, ils ont eu accès au rouleau plus tôt, donc je sais pas pourquoi.
En fait, c'est pas une question d'accès au rouleau, parce que ce rouleau, il a jamais été considéré comme perdu, je veux dire. C'est simplement qu'il n'a jamais été édité en tant que tel. Donc la version, entre guillemets, officielle de Sur la route, jusqu'en 2007, c'était cette version de Viking Press de 1957.
Bah oui, donc, le film, il a été tourné après de 2007.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la version complète et amplifiée, c'est presque une version pour les spécialistes de Jack Kerouac. Mmh. La version que tous les enfants américains, enfin tous les ados américains, ils lisent parce que c'est un classique et que, tu lis forcément Sur la route si t'as un cursus scolaire, on va dire un peu classique aux États-Unis, c'est vraiment considéré comme un classique incontournable de la littérature américaine. Eux, ils lisent la version originale, la version des années 50, parce que c'est celle qui a fait foi et c'est celle qui est rentrée comme un classique de la littérature. La nouvelle version, si tu veux, c'est plus une autre version de Sur la route. Elle évolue en parallèle de la première quelque part, mais encore aujourd'hui, la version qui est considérée comme originale, c'est le manuscrit de 1957.
Oui, donc oui, d'accord, du coup. Ben, ça n'empêche que c'est super relou, voilà.
Ok.
Je suis navrée pour tous ceux qui ont aimé route. Je vous expliquerai après, hein, parce que j'ai quand même tout un argumentaire, hein, derrière.
Voilà, alors bah, moi je peux donner mon avis qui est pas juste c'est relou, tu vois, tu rebondiras dessus après. Je sais que ton avis c'est pas que ça, mais en fait, je vais juste parler du style. Je pense qu'on parlera un petit peu, on rentrera un peu dans le détail de l'intrigue derrière, pourquoi on a eu un peu de mal à accrocher, mais je trouve en fait que je me suis totalement mis dans la peau d'un jeune lecteur en 1957, tu vois, en plein dans ce moment du jazz, du début du rock'n'roll et du début, oui, de la contre-culture, dans cette Amérique très conformisme, très cadenassée, après des années de McCarthyisme et de guerre froide, tu vois, avec cette jeunesse des baby-boomers qui commencent à arriver sur le marché et à qui on dit non, mais il faut que tu sois bien, bien cravaté et que tu ailles bien à la bonne université pour après aller mourir soit en Corée, soit au Vietnam, et que après tu fasses comme papa et que tu fasses tourner la machine capitaliste. On sait que cette jeunesse-là, 10 ans après la publication de Sur la route, elle va tout faire péter aux États-Unis. Oui. Que ça va être, il va y avoir après les hippies, il va y avoir la contre-culture, il va y avoir la drogue, il va y avoir le LSD, il va y avoir le hard rock. On sait que tout ça, ça va arriver 10 ans après que la route arrive. Et je me dis, dans la peau d'un jeune lecteur qui est mal dans sa peau à cette époque-là, il y a ce roman-là qui arrive et qui va t'expliquer qu'il y a une autre Amérique, qu'il y a une Amérique qui vit sur la route, qu'il y a l'Amérique des pauvres, des ouvriers, des noirs, l'Amérique non conformiste, qui va écouter du jazz en se droguant et en limite en se détruisant et en disant nos futurs. Et je me dis, pour cette époque-là, je comprends tout à fait que Sur la route, qui est vraiment ce récit de quelqu'un qui a juste dit je vous emmerde, je claque la porte et je dis merde à cette Amérique-là, parce que c'est ça, hein, c'est à la fois une lettre d'amour à l'Amérique, à ses grands espaces et tout, mais ça dit merde à l'Amérique à papa, l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique des militaires qui claquent les talons, quoi. Enfin,
je sais pas si ça dit merde vraiment à proprement parler, tu vois, juste des gens qui sont en galère, quoi. Enfin, j'appelle pas ça dire merde, moi. C'est un descriptif de la misère des gens de l'époque.
Ouais, mais je te parle de la manière dont ça a été reçu, où à l'époque, quand tu prends la fiction américaine, la fiction américaine, les films américains, l'Hollywood des années 50, tu sais, l'Hollywood des westerns et de Frank Sinatra, ça ne montre pas du tout cette Amérique-là.
Oui, c'est vrai. Et je me dis...
Voilà, tout est propre, tout est bien coiffé. Éventuellement, tu vas voir un film de science-fiction avec des monstres mal faits au drive-in, mais c'est le maximum de frissons que tu peux avoir.
T'oses à peine toucher les boobs de ta copse.
Voilà, c'est ça.
Par contre, tu veux bien la violer. Eh oui.
Voilà, non mais éventuellement, oui, voilà. Donc non, ne faites pas ça.
Non mais à l'époque...
Voilà, donc t'as ce roman-là qui arrive, en plus dans un style, même dans sa version, dans la version que t'as lue, qui est complètement différent de l'époque, parce que c'est du vocabulaire très cru, ça n'hésite pas à parler de choses qui ne sont pas, qui n'existent pas en fait dans la littérature de l'époque, ne serait-ce que des Noirs et des Mexicains, qui sont assez présents et qui sont pas montrés de manière plus négative que sont les Blancs. C'est, ils sont montrés au même niveau de galère et de misère que les autres, mais il y a une considération qui est pas bienveillante, parce que c'est pas un roman qui a un regard très bienveillant sur le monde en général.
Non, mais il y a pas de racisme, quoi.
Voilà, regardez, cette Amérique-là, elle souffre, et c'est à cause du conformisme. Et donc, je me dis, voilà, à l'époque, je comprends très bien que ce style très cru, très oral, très percutant, et ces thématiques très, très non-conformistes, pour l'époque, je comprends que ça ait bouleversé une partie de la jeunesse et que ça ait fasciné. Je comprends aussi tout le scandale que ça a causé avec des gens comme Truman Capote qui disent « on ne peut pas écrire comme ça, ce n'est pas de l'écriture, c'est de la dactylographie ». Je suis sûr qu'il l'a dit exactement avec cette voix. Tu vois.
Oui, il y a des chances. Peut-être un peu plus aigrelette, non ?
C'est de la dactylographie.
Peut-être un peu trop vieux, vas-y, continue.
Je sais pas quel âge avait Truman Capote à cette époque. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je comprends tout ça. Et je trouve ça profondément chiant et illisible aujourd'hui. C'est illisible. C'est long, c'est des péripéties qui se répètent, c'est très cyclique. On dirait un roman médiéval.
Je préfère encore lire du roman médiéval, quoi. Je veux dire, là que le type, voilà, il achète une part de tarte dans un petit resto sur la route. Ok, c'est cool. Deux routes plus loin, boum, il reprend une autre part de tarte. Oh, elle est mieux, machin. Mais bon, là, ils mettent même une grosse boule de glace. Fantastique.
on s'en tape, mon pote, qu'est-ce qui se passe exactement? Et tu peux même pas t'attacher au personnage, parce que franchement, lui, il arrête pas, enfin bref.
En vrai, c'est un blog. Enfin, je suis désolé, ouais. Mais en vrai, c'est un skyblog. Enfin, il faut quand même prendre sur la route, faut dire ce que c'est. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est quand même l'histoire d'un mec qui va te raconter... Sans l'enjoliver, et ça je pense que c'est relativement vrai, parce que beaucoup de biographes de Kerouac ont dit que la plupart des événements qui sont narrés sur la route, et c'est pour ça qu'il y avait aussi des risques de procès et tout, parce que ça décrit beaucoup de conduites illégales.
Ah oui, c'est sûr.
Enfin, il y a des mecs qui ont été accusés de meurtre, et c'est dit dans la route, genre, oh, bah, ce mec-là, il a buté quelqu'un, tu vois. Enfin, donc tu mets son vrai nom, bah ouais, il a buté quelqu'un, tu vois.
mais son passé, il ouvre.
voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc il enjolive pas ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est le récit de 3 ans de voyage de la côte est à la côte ouest, de la côte ouest au Mexique, sur lequel fondamentalement, à part à quelques moments très iconiques, il se passe beaucoup d'ennuis, beaucoup de misère, beaucoup de j'envoie un télégramme à ma mère pour qu'elle me faxe $10.
Moi, c'est ma tante dans ma version.
C'est sa... Ouais, c'est sa mère. En vrai, c'est sa mère.
Oui, voilà, mais je comprenais pas. J'étais perdue. J'étais, ah, mais pourquoi est-ce que tout le monde parle de sa mère? C'est sa tante dans le bouquin. Et donc, voilà, ok, d'accord.
Ouais, parce que d'ailleurs, voilà, dans ta version, il doit dire oui, c'est la tante de Sal Paradise, donc qui est le narrateur. Moi, c'était vraiment, j'écris à Madame Kerouac, je veux qu'elle me faxe de l'argent, juste pour que je puisse reprendre le bus pour aller retourner dans un squat à Denver, tu vois.
Enfin, bah oui, complètement. Je comprenais pas. Il lui envoyait de la thune, elle lui renvoyait. Je me disais, mais je suis perdu dans le truc, moi. Pouf. Et franchement, il faut qu'on fasse faut que tu lises le début de ton bouquin et que je lise le début de mon bouquin pour voir, quoi.
On peut faire ça, et d'ailleurs si vous allez sur la page sur la route sur Wikipédia, vous aurez un tableau de correspondance des noms qui peut vous aider à comprendre qui est qui, si jamais oui. Notamment si jamais vous lisez la version de 67 et que vous voulez essayer de comprendre, bah, en fait c'est qui Carlo Marx, qui est Galetta Hessel, qui est Inès,
qui est
Marie-Lou, en fait, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus connus après, hein, dans ce truc là si vous voulez après, voilà, vous
là,
intéresser
pour le coup, ça devient intéressant d'avoir ouais. Le rapport, quoi, parce que pour moi, tout ça, tous ces personnages, je m'en tape royalement, quoi. C'est alors que si j'avais su dès le départ que ça parlait de personnes qui sont connues maintenant, j'aurais peut-être eu un autre regard sur la chose, tu vois. Mais ça, ouais. j'avais pas saisi au moment où je lisais.
Notamment, il y a toutes les aventures qu'il vit avec toi. Il doit s'appeler Dean Moriarty, je pense, dans ton.
C'est ça.
Qui est un peu son comparse, je dirais encore plus négatif que lui par certains côtés. Voilà, qui est en fait le personnage de Neil Cassady, qui est lui aussi une personnalité littéraire assez importante, notamment du côté de la poésie, puisqu'il y a une grosse partie des gens qu'on va croiser dans ce livre qui deviendront des grands poètes américains.
Kerouac, qui est le plus romancier. En bonne donneuse de leçons, je dis que Dean Moriarty, c'est qu'un gros con. Voilà.
Il y a aussi, mais c'est encore une fois, c'est des gens qui ont des chapitres, enfin qui ont des vies qui sont profondément autodestructrices, qu'on va pouvoir retrouver après dans des personnages de punk, en fait, davantage que dans des personnages de hippies. Et encore une fois, je comprends pourquoi les hippies ont vu quelque chose qui les a inspirés là-dedans. Tu sais,
ça je comprends bien le principe des grands espaces, de l'amour libre, ce genre de choses. On retrouve quand même.
Et puis vraiment de dire, voilà, c'est fini l'Amérique à papa, il y a une autre Amérique qui est possible. Sauf que ce que Kerouac dit, c'est fini l'Amérique à papa, suicidons-nous, tu vois. C'est ça.
C'est, pour moi, c'est un des plus gros reproches que je peux faire au livre, c'est qu'on nous le présente comme étant quelque chose de la contre-culture, mais il offre absolument aucune perspective positive, il offre absolument rien du tout d'intéressant. Tu vois, quand on dit contre-culture, tu t'attends à ce qu'il y ait un message, quelque chose de proposé. Une autre société de proposer pour te sortir du modèle, tu vois. Tu dis contre-culture, donc forcément c'est différent, mais il y a un modèle. Et ben non, rien du tout, là, c'est comme tu dis, c'est suicidez-vous, quoi.
Le truc, c'est que la contre-culture, elle n'est pas tant dans le bouquin, mais dans le contexte et dans la vie de tous les personnages que Kerouac croise là-dedans et dans tout ce qu'ils vont devenir après. Puisque Kerouac, il va devenir alcoolique et dépressif. Donc, c'est un peu triste.
C'est forcément étonnant, mais oui. Ouais.
Et puis, pile au moment où il va rencontrer le succès. Donc, au final, c'est au moment où il va sortir de cette vie-là pour devenir une personnalité connue des Américains, que sa vie va encore se dégrader, alors que ça n'allait déjà pas super bien. Mais, il y a d'autres personnages qui sont croisés dans la route, qui deviendront des grands antimilitaristes, des grands tenants de la contre-culture, et puis surtout Kerouac, ça va être la graine qui va faire germer après toute la BD de la contre-culture, toute l'Americana, enfin tout ça. Donc c'est un peu l'origine de quelque chose.
Oui, c'est sûr.
faut surtout pas y aller en vous disant je vais trouver le sens à ma vie dans la route. Vous allez trouver surtout le portrait d'une Amérique qui va extrêmement mal à une époque où l'Amérique prétend aller extrêmement bien.
Voilà. Et sans solution. Il n'y a absolument aucune solution.
Mais en même temps, est-ce que tous les bouquins doivent apporter une solution et des réponses au monde
Moi, je trouve que quand tu es... En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'attendais à ça. C'est-à-dire que quand on te dit que c'est le machin qui a lancé la contre-culture et tout, donc tu te dis, alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a... Il a construit quelque chose. Alors qu'en fait, il a juste pour rien, tu vois. C'est tout le reste qui a été construit autour.
C'est le métadiscours qui est fait autour, en fait, qui te gêne plus que la démarche de Kerouac elle-même, qui au final est un mec qui a raconté son voyage dans l'Amérique d'en dessous, quoi. Dans l'Amérique de Kentucky Route Zero, pour ceux qui sont familiers des grands jeux vidéo d'aventure.
Ok. C'est ça. Si tu veux, même, je vais même te lire ce que j'ai écrit. Parce que j'ai écrit mes pauvres petites pensées au moment où j'ai eu fini de regarder et de lire. Parce que j'ai dit à un moment donné ça suffit. Alors j'ai écrit parce que sinon après j'oublie, parce que comme je commence à me documenter un peu partout après, je me dis est-ce que c'est les autres qui m'ont mis ça dans la tête ou pas, donc voilà, je me pose des questions. Alors j'ai mis: ça me fout en rogne cette histoire, parce que ok, trimballer sa queue de nana en nana et faire des gosses, vouloir jouer à être grand alors que ce sont des gosses, ça me gonfle. Après ok, en remettant dans le contexte des USA de l'époque, les rêves américains, l'après-guerre, tout ça, le type n'avait peut-être pas beaucoup de choix, mais c'est d'un triste. Le narrateur regardine avec tellement de fascination alors que le pauvre est en galère totale, il a visiblement besoin d'une aide psychologique qui n'existait peut-être pas à l'époque, je sais pas. Il ne se respecte même pas. Et le narrateur regarde ça, il raconte ça avec un détachement qui crée un malaise. Et surtout, trop de mots, pas assez de rythme, un vocable vieillissant, des palabres pour Kutchy. Ah ben, j'étais un peu vulgaire.
Trop de notes, Mozart.
Bref, pour moi, on peut cuter comme on veut, à deux conditions: que toutes les parties soient consentantes et qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur des personnes qui n'ont rien demandé. Parce que tu vois, moi, c'est ça, il raconte quand même une histoire, t'as Dean qui va faire des gosses à droite à gauche, et ces pauvres gamins et ces femmes-là qui doivent se démerder dans les années-là, en plus, qui doivent se démerder toutes seules avec des chiards, simplement parce que il n'y avait pas forcément de moyens de contraception très performants. Et en plus, lui, il en avait rien à foutre. Il va aller à droite, à gauche, machin, machin. Moi, ça me pose aucun problème, ça. Mais il faut que tout le monde soit d'accord, et surtout qu'il n'y ait personne au bout qui souffre.
Certes.
Et là,
mais
toute cette souffrance, ça me mettait en colère, ça me mettait en rogne, et ça m'a énervé parce que voilà, du coup, j'ai perdu mon temps à dire ça. Ça m'a énervé. Je me suis senti floué, voilà.
Je comprends très bien. Je comprends très bien que étant toi-même parfois un petit peu une mamie qui crie un petit peu sur ses petits enfants en disant oh, tu as perdu, je comprends que ton côté Cranky Kong n'est pas beaucoup apprécié. Je suis très jeu vidéo aujourd'hui. N'est pas beaucoup apprécié ça. Après,
parce que j'insiste vraiment sur le fait que c'est que les gens souffrent des actes de l'autre et qu'il a une fascination pour ce type qui fait souffrir les gens autour de lui, et je trouve ça extrêmement malsain, pas agréable à lire, c'est pas des trucs que j'ai envie de lire en fait, et j'ai pas envie qu'on porte au nu des personnalités aussi dégueu en fait. Ce type ne respecte absolument pas la femme.
Je pense qu'il est aussi porté au nu déjà par des gens qui l'ont pas forcément lu, parce que il y a beaucoup de choses qui se construisent à rebours comme ça, et derrière je pense même que c'est une partie de ce qui a détruit ce qui restait de Jack Kerouac au moment où le bouquin est sorti, c'est qu'il a pas du tout digéré le fait de devenir une star, qu'on lui demande son avis sur tout, qu'on lui demande son avis sur la guerre du Vietnam, sur la famille américaine, sur des choses comme ça.
Alors, je parle pas de Jack Kerouac, hein, je parle de Dean Moriarty.
Ah oui, tu parles du personnage de Dean.
Je
pense qu'il y a de toute façon, c'est la lui raconte ses souvenirs, si tu veux. Donc oui. Il a perçu les trucs comme ça. Je pense qu'il n'enjolive pas beaucoup, de toute façon, ce livre n'aurait pas marqué l'histoire de la littérature s'il y avait des rédemptions et des happy endings à la fin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est s'il y avait une fin à la Disney où à la fin tout le monde dit « Ah, mais j'ai été trop stupide ! Maintenant, tout va aller bien et on va bien se comporter et on va devenir des braves petits soldats du pacifisme et on va faire des trucs géniaux. » Je pense qu'en vrai, ça n'aurait pas eu de sens par rapport au reste du bouquin.
Il y a un problème avec la littérature générale dans ce cas-là, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les gens souffrent et qu'on termine le bouquin par les gens qui souffrent et que voilà, basta,
C'est pas toujours le cas. Je te parle de ce livre-là en particulier.
C'est triste, quoi. C'est triste à la fin. On peut pas. Après, du coup, ça donne des exemples et les gens ils se disent de toute façon, je vais vivre ma vie en gros spleen total, comme machin dans son bouquin. Tu attends, mais t'as une vie. t'as déjà une chance de dingo d'être vivant. Alors, faisant quelque chose où t'es quand même heureux, un minimum, quoi. T'es pas obligé de t'infliger des blessures simplement parce que t'as lu ça dans un bouquin.
Ouais, l'injonction à être heureux à des gens qui vont pas bien, tu sais que ça marche
non,
pas en vrai.
Je sais que ça marche pas, mais...
Tu vois, sors, lis un livre, baise un phoque, tu vois, enfin, ce truc-là, bon, ok, ça...
Mais non, bien sûr que non, mais je pense quand même que si on mettait un peu plus de messages positifs dans les livres à lire pour les jeunes, par exemple... Là, je fais vraiment mamie, j'en ai bien conscience, tu vois, mais je pense quand même que ça pourrait avoir un impact un peu plus positif, surtout que franchement, tu vas pas imposer de lire sur la route à des jeunes. C'est horrible, il faut pas leur infliger cette torture, quoi.
Alors, de toute façon... Enfin, il faut bien voir aussi que sur la route, ça a été écrit à une époque où il y avait beaucoup de livres, enfin, les polémiques autour de la littérature à destination, ou dont s'emparaient les adolescents, elle était récurrente. Alors, je crois que c'est un petit peu après, mais tu vois, il y a...
Et je comprends en plus quand on est...
The Catcher in the Rye, tu vois, qui est sorti un petit peu après. Il y a des romans comme ça qui ont un petit peu aussi... qui sont pas tous déprimants, d'ailleurs. Qui ont dit, voilà, qui ont remis un peu en cause l'ordre établi. Je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes s'en sont emparés à l'époque. Pas tant pour se dire, je vais lire des trucs badants et après, je vais aller mal. C'est juste pour dire, voilà, je veux lire des trucs qui me ressemblent, ou qui ressemblent à mes aspirations, ou qui ressemblent au sentiment que je suis en train de vivre. On sait que la littérature pour ados, c'est une des, même encore maintenant, c'est la littérature young adulte, c'est une des plus déprimantes. T'sais, c'est une des trucs où il y a que des viols, il y a que des meurtres, c'est que des histoires de dystopie et tout. Mais c'est parce que c'est les sentiments que t'as à cette époque-là aussi.
Oui, c'est assez violent ce qu'on ressent quand on est adolescent, ça c'est sûr.
Nous, on a peut-être envie de lire d'autres trucs aussi maintenant.
Veux des bisounours.
voilà, je suis pas sûr qu'avec le livre que t'as choisi pour le mois prochain, ça soit mieux, mais en même temps je t'ai laissé choisir, tu vois, donc
je sais.
Après, pour finir là-dessus, je pense aussi qu'il y a une des raisons, mais là je sors complètement de Kerouac, hein, des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de livres très durs qui rentrent dans l'histoire de la littérature, c'est aussi parce qu'ils sont beaucoup plus impactants que les livres de Catherine Pancol avec des histoires de voisins qui se font des bisous, tu vois.
Non, mais ça, on est d'accord, on est complètement d'accord. Mais tu vois, je préfère lire un livre du style Beloved, parce que celui-là m'a marqué de ouf.
Ouais, bah, La Joueuse de Gaulle, mois dernier, c'était vénère aussi, quoi.
Ouais, c'était vénère, mais tu vois, ça m'a... tu vois, La Joueuse de Gaulle, je pense qu'on verra sur le truc, mais c'est m'a moins marqué, même si c'était quand même... c'était puissant, j'ai beaucoup apprécié.
Peter Pan, il tue des gens, Bob. Peter Pan, il tue des enfants.
Mais ouais, que Beloved ou La Petite Fadette, tu vois, La Petite Fadette me reste vraiment beaucoup en tête, et puis Beloved aussi, mais Sur la route me restera comme un contre-exemple de... Ouais, non, franchement...
Moi non plus, je l'ai pas apprécié, donc c'est pour ça que j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui était la cible à l'époque. Voilà.
Ouais,
et je comprends ce que les gens y ont trouvé, et je comprends aussi ce que tous les spécialistes de la littérature ont analysé là-dedans, notamment parce que c'est un portrait de tous ces personnages qui deviendront les grands poètes de l'Amérique des années 50 après. Quoi.
Mais voilà, il faut le lire comme tel. Enfin, faut pas s'attendre à un truc, parce que c'est ça, c'est peut-être qu'on nous l'a trop survendu et que du coup je m'attendais à un truc franchement de ouf, mais le style, il est mauvais. À part par moment, il y a des jolies choses. Attends, j'avais noté quand même des jolies phrases.
Alors, c'est un style très oral, donc ça j'avoue, je m'avancerai pas.
Alors, que j'aimais bien, elles étaient pas forcément...
Je m'avancerai pas sur... Peut-être que la traduction fait perdre beaucoup aussi. Donc je peux pas trop me prononcer sur le style en lui-même.
Ouais, peut-être. Alors, attends... pourquoi est-ce que j'avais souligné ce... Je jurais tant et plus, je levais les yeux vers le ciel noir et demandais à Dieu qu'il accorde aux petites gens que j'aimais une meilleure chance au départ et davantage de possibilités d'arriver à quelque chose dans la vie. Personne ne m'écoutait là-haut, j'aurais pu m'en douter. Bon, j'ai noté ça, je sais pas pourquoi, mais je l'ai noté, c'était sur l'instant, j'ai trouvé ça chouette. Pour qui se prenait-il à casser les oreilles aux gens de la route pour cette seule raison qu'ils étaient des petits voyous d'étudiants et que leurs parents découpaient le roast beef le dimanche midi? Pour qui se prenait-il à se payer la fiole d'une fille réduite à une triste situation en compagnie d'un homme assoiffé d'amour? Nous, on ne s'occupait que de nos unions. Aucune de ces sacrées voitures ne s'arrêta. Bon, ça m'a marqué, va savoir.
Moi, je trouve qu'il est bien ce passage. Tu vois, moi, il y a pas mal de moments où je me suis dit, voilà, je comprends le souffle épique, je comprends l'appel des grands espaces, je comprends les sentiments du personnage. Mais après, voilà, moi, là où je pouvais pas, c'est que il y a un passage comme ça, et après, effectivement, il y a tous ces passages de dire, je me suis arrêté dans un resto-route. J'ai vu une prostituée, elle avait l'air alcoolique. Moi aussi, j'ai bu des coups, et après, j'étais dormir sur un trottoir.
Et après, elle a pas voulu.
voilà. Donc après, j'ai été prendre un autobus pour une autre ville de merde où il y avait le festival du plus beau chapeau de cow-boy, et puis après j'étais triste, et après j'ai trouvé un matelas par terre, et après j'ai dormi. Bon, faut vous dire que voilà, il y a des passages où tu dis, ah, c'est intéressant, il y a tel personnage, il se passe ci, il se passe ça, et après vous allez avoir 50 pages de Kerouac qui galère en autobus, quoi.
C'est ça, c'est vraiment pénible. Ah, viens, allez, je dis le début de mon truc à moi.
Après je pourrais comparer avec la mienne, et comme ça après on pourra conclure cette émission.
D'accord. Alors, j'ai connu Dean peu de temps après qu'on ait rompu ma femme et moi. J'étais à peine remis d'une grave maladie dont je n'ai rien à dire, sinon qu'elle n'a pas été étrangère à cette lamentable et déprimante rupture, à mon impression que tout était foutu. Avec l'arrivée de Dean Moriarty commença le chapitre de ma vie qu'on pourrait baptiser « Ma vie sur la route ». Auparavant, j'avais souvent rêvé d'aller dans l'Ouest pour voir le pays, formant toujours de vagues projets que je n'exécutais jamais. Pardon. Pour la route, Dean est le type parfait, car il y est né, sur la route, dans une bagnole, alors que ses parents traversaient Salt Lake City en 1926 pour gagner Los Angeles. Les premiers échos que j'ai eus de lui me vinrent de Chad King, qui me montra les lettres que Dean avait écrites dans une maison de correction du Nouveau-Mexique. Je fus prodigieusement intéressée par ces lettres dans lesquelles, avec tant de naïveté et de gentillesse, il demandait à Chad de tout lui apprendre sur Nietzsche et les autres choses merveilleuses que Chad connaissait. À l'occasion, Carlo et moi nous parlions de ces lettres. Pourrions-nous jamais rencontrer l'étrange Dean Moriarty ? Tout cela remonte bien loin, à l'époque où Dean n'était encore que le type qu'il est devenu. N'était pas encore le type qu'il est devenu, où il était un gosse en cage, tout enveloppé de mystères. Puis la rumeur courut que Dean était sorti de sa maison de correction et qu'il venait à New York pour la première fois.
Bob, lis peut-être pas 50 pages non plus.
Non, c'est fini, c'est fini. Okay. Vas-y, à toi, vas-y.
Alors, moi, vous allez voir, il y a des petites variations. Il n'y a pas tellement de différence sur le paragraphe, mais vous allez voir, les lieux, les noms, tout est un petit peu différent. Donc, j'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Avant, j'ai toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays. J'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais les démarrer, quoi. Ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'est le type idéal pour la route parce que lui, il y est né sur la route en 1926 pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Al Chase qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui. Allez, Lise, tourne la page. Depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elles demandaient à Al, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était justement si célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finissait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassady. Donc voilà. Tu vois que c'est un style qui est un peu très différent, même dans ma traduction.
C'est quand même super différent. Là, ça deviendrait presque agréable à lire, ton truc, quoi.
Bah moi, c'est, en fait, ils sont vraiment repartis du rouleau. C'est-à-dire de cette littérature très écrite et très, très en un seul jet. T'as l'impression que Kerouac, il est en train de te parler.
Ça, je pourrais apprécier, je pense. Ouais.
Toi, ça fait très roman .txt, quoi.
C'est terrifiant. Avec du vocabulaire de merde, là. Il a pris sa petite poule, machin et tout. Non mais sérieux, t'as pas d'autre chose à dire que me... Après bon voilà, c'est l'époque quoi, c'est l'époque aussi qui veut ça. Ils ont fait cette traduction toute pourrie parce qu'à l'époque on disait une poule en France, j'en sais rien.
Je pense que dans les années 60 c'est ce qu'on aurait pu trouver effectivement pour s'approcher du mot chic, j'imagine, qui doit être voilà, ou quelque chose de pas très gracieux comme ça.
Ouais. Mais c'est chiant à lire du coup. Ouais, moi, c'est vraiment le côté des femmes qui est pas très beau. Après, voilà, ça va avec l'époque aussi.
Ouais.
Tu vois, Dean, donc du coup, c'est Neil, qui est quand même le cador de la virilité, puisqu'il arrive à faire jouer les femmes à n'en plus finir. Il arrive même à plaire aux hommes. Quoi qu'il fasse, il faut toujours qu'il ait plusieurs femmes en même temps. Il arrête pas de plusieurs fois par jour, il va voir des femmes. Tout ça, il y arrive. Tout ça, je veux dire, c'est l'étalon viril que tout le monde apprécie et qu'on porte au nu et tout ça, donc c'est bon.
Bon, Bon, de toute façon, bon, je pense que tout ce beau monde était de toute façon extrêmement bisexuel, ce qui, moi, ne me déplaît pas.
Non, moi mais non plus,
ça, d'ailleurs, c'est un des romans, je pense, où la question de la bisexualité est traitée avec la manière la plus naturelle du monde.
Oui, c'est vrai.
Des Kerouac qui s'en fout complètement, il le dit d'ailleurs à un moment. D'ailleurs, j'ai bien aimé, il y a un passage où il se met à faire des réflexions homophobes parce qu'il est bourré, et il l'écrit lui-même, il dit « je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre que les gens soient pédés, m'en fiche, la moitié des gens que je connais, c'est le cas, et ça m'embête pas. » J'étais juste ivre et du coup je disais n'importe quoi, tu vois.
Mais ouais, non, ça c'est vrai que sur le coup là c'est super sympa, tu lis un truc effectivement où il n'y a pas de jugement de valeur nulle part.
Oui, mais voilà, mais du coup c'est aussi cette absence totale de jugement qui donne un côté très apathique à ce personnage qui est très apathique lui-même,
voilà
et qui se bat déjà contre des démons d'ailleurs qui vont le ronger toute sa vie. Mais bah, effectivement, oui. Moi à entendre ton début de traduction, moi je pense que je serais mort, je me serais endormi très régulièrement.
Ah, mais ça a
moi,
été une torture.
Moi, il y a un côté très oral qui me poussait quand même à. C'est un très bon page-turner, en fait.
Ah oui, d'accord. Ça, ouais, non, ça se passait mieux, quoi. Pas du tout. À part le passage avec Rémi qui est plutôt sympathique. Mais autrement, oh la vache, qu'est-ce que c'est long et chiant. Et avec un vocabulaire qui est vraiment. Enfin, ça va plus du tout. Ne lisez plus du tout cette partie-là. C'est
pas de toute façon, aujourd'hui, vous trouverez en poche pour 4 à 5 balles. Enfin, moi, je l'ai acheté en livre audio. Il m'a coûté 4 euros. C'est vraiment la version que vous allez trouver facilement chez Folio. C'est la version rouleau originale. Donc,
mieux,
si ça vous intéresse et que vous voulez aussi avoir les bons lieux, les bons noms et les bonnes dates, si vous intéressez à l'histoire de la littérature, faut partir sur cette version parce que ça retrace exactement les vrais événements. De la vie de Kerouac avec les noms corrects, alors que si vous prenez la version roman 1967 de Gallimard, vous allez avoir cette version très réécrite de son rouleau qui va même pas vous donner des indications précises sur ce qui s'est vraiment passé, puisque les dates, les noms et les lieux sont pas les bons.
Bah oui, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai envie de le brûler, celui-là. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais...
Oh là là, ne faites pas ça. Donne-le à quelqu'un à qui ça plaira.
Mais non, mais parce qu'il est... Enfin, voilà. Je me dis qu'on a quand même vachement avancé en termes de traduction. Hein.
Bah ouais.
Je trouve qu'on colle de plus en plus quand même au message de base, alors qu'il fallait tout le temps que dans la dernière moitié du 20e siècle, il fallait qu'on traduisait, mais on fallait rajouter notre patte.
Bah ça s'est professionnalisé beaucoup, et puis on demande plus maintenant à des traducteurs qu'à des romanciers de réécrire les livres.
Ouais.
Même si ça peut arriver encore, aujourd'hui on va pas aller demander à Monsieur Intel, qui est très connu pour écrire des polars, de traduire Watchmen parce qu'on se dit que ça va bien marcher. Bah pas tellement, en fait.
Bah non, bah oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien qu'on ait évolué. Il y a beaucoup de choses bien dans notre société actuelle.
Eh oui. Et heureusement, parce qu'on vit dans une société. Et on va peut-être finir cette émission.
Oui,
d'accord. Voilà,
okay.
Parce que ça fait déjà quand même une heure, n'est-ce pas?
Oh, le temps passe, le temps passe.
Voilà, et puis je pense qu'on a quand même fait grosso modo la tour de la question. Donc, c'est pas un roman qui restera dans nos lectures préférées, mais je suis très content d'avoir découvert ça pour tout l'aspect historique et l'aspect histoire de la littérature. Moi, il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas du tout dans cette histoire, à commencer par la vie de Jack Kerouac, et c'était super intéressant. En fait, tu vois, j'ai préféré toutes les 50 articles en préface que j'avais dans mon bouquin que le bouquin en lui-même, donc c'était au moins, je le garderai en mémoire, ça, tu vois.
D'accord, parce que moi, du coup, je suis très contente de l'avoir lu, parce que maintenant, je peux le rayer de ma liste des choses que j'ai faites, et voilà, et ça, c'est important.
Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va lire le mois prochain?
Alors, on avait dit...
J'ai fermé la page, hein, toi aussi.
Attends, moi, je la rouvre. Attends. Alors, attends.
C'est la route des battus, c'est ça?
Mais oui, mais attends. Ah, la grève des battus.
La grève des battus. Oui, la route
des déchets
tous les romans
humains.
Pas... Voilà. Ou les déchets humains. Tu vois, c'est toi qui l'as choisi. Hein.
C'est moi
pas
qui
me dire
fait.
Après, oh, c'est triste la littérature. Pourquoi on n'a pas lu Marc Lévy?
Alors, veux-tu que je te dise pourquoi je l'ai choisi? Parce que comme dans le, j'ai mis à jour notre tableau et que j'ai mis le nombre de pages de chaque roman.
Ouais.
Je l'ai choisi parce qu'il faisait exactement 160 pages. Voilà.
C'est bien ça, on apprécie ça.
Oui, bah alors par contre, je sais pas, peut-être qu'on va pleurer beaucoup. Donc c'est de Sofol Aminata.
Voilà, qui est donc une romancière sénégalaise, je crois.
Je crois
donc,
aussi.
Donc ouais. notre retour dans la littérature africaine quelques mois après Ouran Langue Morte.
Oui, et alors ce qui est marrant, c'est qu'en même temps... Ah bah non, mais je le dis pas, parce que oui, je suis en train de lire un autre bouquin, je vous dis pas.
Bah, tu nous diras le mois prochain.
Voilà, je dirai le mois prochain si j'ai fini de le lire.
Voilà, donc on salue tout le monde, même les traducteurs de Jack Kerouac, quels qu'ils soient, de l'époque. Bon, ils sont probablement décédés, je pense. C'est des traducteurs en 67.
Ils ont eu le mérite de le faire. Ils ont eu le mérite de le faire. On peut pas cracher dans la soupe comme ça. Je suis une horrible personne qui crache dans la soupe tout le temps.
Ah, on peut cracher dans la soupe, mais faut pas la boire après parce que c'est pas très Covid friendly.
C'est vrai.
En tout cas, ou cracher dans la vôtre de soupe.
Oui, parce qu'après, bon, on avale notre salive après tout. Hein.
Et ne mangez pas de pâté si vous devez mettre un masque après. C'est une
mauvaise
idée.
Oui, alors pareil, ne mangez pas de fromage très fort aussi le midi.
Mangez vraiment rien qui sent pas bon avant de mettre un masque. C'est, voilà. N'oubliez pas ça.
Ou alors prenez un chewing-gum qui vous durera 4 heures.
Ah, machin chewing-gum dans un masque, ça aussi ça doit être...
Non, ça va, ça se fait. Hein.
Bon. Sur ces conseils gastronomiques, c'était très gastro aujourd'hui.
Ouais, dans tous les sens du terme.
Nous sommes l'appel de Cthulhu, qui est un podcast du Calvin Ball Consortium. On a notre compte Twitter maintenant, auquel vous pouvez vous abonner, qui
absolument
est tenu par notre community manager Clafouti, que l'on salue et à qui on
merci
fait plein
Clafou,
de petits poutous Covid friendly, c'est-à-dire des poutous de loin.
Ouais.
Et on salue le chat de Clafou également,
oh, qui
est peut-être
magnifique,
le plus beau chat de tout Internet.
Oh là là, mais moi je suis pas super fan des chats, de, tu vois, mais alors là, mais je suis amoureuse de son chat.
Ah là là, la princesse Yona, c'est vraiment. C'est l'autre mascotte du Calvin Mool Consortium avec Chaussette.
Voilà. Il faut quand même le reconnaître.
Donc voilà,
Il y a de plus en plus de chats, hein, quand même, qui sont beaux aussi.
C'est vrai, ils ont leur pelage d'hiver.
Ouais.
On salue donc tous les gens qui nous écoutent. Vous pouvez nous rejoindre donc sur Twitter si vous voulez suivre les sorties de nouveaux épisodes. Sinon, juste vous abonner aux applis de podcast, c'est bien. Vous pouvez soutenir le Calvin Mool Consortium en donnant au Tipeee.
Oui.
Du Calvin Mool Consortium, on n'est plus qu'à, je crois, on a moins de 20 euros du Tipeee, du moment où c'est moi qui commence à écrire un livre, un grand roman existentialiste, qui deviendrait un livre audio, je le rappelle, si vous donnez au Tipeee, qui s'appelle « Je ne peux pas croire qu'au lieu d'aller à l'école des yéyés, ma petite sœur a choisi de devenir maître chien
».
Voilà, vous voulez lire ce livre. Pour lire ce livre, il faut impérativement que vous donniez au Tipeee. En plus, je crois, quand on sera à 150 euros de dons par mois, il y a aussi un rieur qui streamera des très mauvais jeux sur notre chaîne Twitch.
Oh là là, mais il faut absolument donner.
Voilà, et la ministre du Travail, je sais pas quoi, elle a dit claquer vos économies de confinement qui n'existent pas en vrai quand on regarde les vrais stats de l'INSEE. C'est que les gens déjà très riches qui ont fait des économies de confinement.
Et ça, c'est
donc
tout à fait étonnant, je ne m'en doutais pas.
Bah dis donc, et je pense que Kerouac, il l'aurait su, ça, tu vois. S'en serait
possible.
Douté.
Oui, c'est possible, mais heureusement, je ne suis pas Kerouac.
Non, mais on n'a même pas besoin d'être Kerouac. Je pense que tout le monde a bien compris. Parce que tout le monde a un compte en banque, en fait. Donc on le voit si
c'est
on a
ça,
fait des économies
c'est
ou
ça.
Pas. Tu vois,
oui,
c'est
absolument.
On sait que c'est pas vrai. Donc enfin bref, suivez-nous et on se retrouve dans un mois pour parler de la grève des battus de Aminata Sofol. Et ce sera sans doute, au moins, on sait qu'on ira jusqu'au bout parce qu'il fait 160 pages.
Voilà, et on sait qu'on va pleurer. C'est obligé. Je sens qu'on va pleurer.
Voilà.
Donc à la prochaine.
Voilà,
merci beaucoup de nous écouter.
Restez prudents, reprenez
soin. Oui, aussi.